Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours derrière mon petit micro rouge pour cette émission de l'écho de ma commune, aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire. Et nous sommes dans les studios de Radio Grand Ciel, les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel, avec Gérard Hamel, maire de Dreux. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Oh, très très bien.
Ça se passe comment alors finalement?
Ben, ça se passe bien, il y a beaucoup de travail.
Oui.
Je suis de ceux qui travaillent à mon âge, qui travaillent encore 13, 14 heures
non,
par
non,
jour.
Non, mais attends, arrête de parler de ton âge, parce que il faut quand même que j'avoue que j'ai le même âge que toi. Alors ça me fait quelque chose.
On vieillit quand même, mais c'est pas dans la tête.
On vieillit si bien, Gérard.
Voilà.
Nous allons commencer par un hommage que tu désirais rendre au colonel Beltrame. C'est une situation épouvantable que nous vivons, sa famille en premier lieu, bien sûr, mais toute la France a été traumatisée par ce drame.
Oui, évidemment. Comment ne pas s'interroger, en fait, sur l'issue de ce drame qu'a vécu encore la France au travers de cet attentat? Comment ne pas s'interroger, admirer, je ne sais pas quel est le qualificatif le plus fort que l'on pourrait employer pour ce geste de ce colonel. Ce qui m'a frappé encore plus, donc évidemment on a tous été admiratifs, tous pensé que sacrifier sa vie pour protéger celle d'un autre, c'est l'extrême de ce qu'on peut donner quand on sert un pays. Et ce qui m'a frappé, c'est j'ai entendu ou j'ai vu à la télévision l'interview de sa mère. Et j'ai été extrêmement touché par le fait que sa mère dise « Mais il ne s'est pas sacrifié, il a fait son devoir ». C'est lourd de sens, c'est très lourd de sens sur un homme qui avait choisi, au travers de l'armée, au travers de la gendarmerie, le devoir, la défense du pays, la défense de la France, jusqu'au sacrifice de sa vie. Alors c'est vrai, c'est très touchant, tout le monde compatit, c'est un héros, on peut le considérer. Il y a eu beaucoup de comparatifs qui ont été faits par des héros de la résistance, Jean Moulin, etc. Je crois que ces comparatifs étaient de bon ton et étaient justes. Voilà, on ne peut qu'aujourd'hui, évidemment, avoir un... Et y compris, ce qui m'a frappé aussi, c'est la jeunesse. J'en ai parlé avec mes petits-enfants, qui ont 16, 17, 18 ans. Ils ont été aussi frappés par le don de sa vie pour sauver quelqu'un. Et c'est quand même un exemple qui ne se produit pas tous les jours, mais qui est extraordinaire et que l'on peut retenir comme étant un geste particulier, mais très fort.
Ça veut dire que cette personne avait quand même une hauteur d'âme extraordinaire. C'est une situation extraordinaire, c'est un geste extraordinaire, mais qui nous interroge tous. Je me suis dit, mais dans la même situation, je fais quoi ?
Ah oui, on peut se poser cette question. C'est pour ça que j'ai écouté avec attention sa maman, qui dit, mais non, il ne s'est pas sacrifié, il a fait son devoir. Je résume ce qu'elle a dit à la télévision, qui pour moi m'a frappé, c'est très fort. Ce colonel avait un tel sens du devoir au travers de la profession qu'il avait choisie, celle d'être militaire, celle d'être gendarme, que sa maman dit qu'il n'a pas sacrifié sa vie, il a fait son devoir vis-à-vis du pays.
Et extraordinaire comme réaction. Et beaucoup de gendarmes, de policiers sont en but effectivement à cette menace permanente. Ça va s'arrêter quand, ça ?
On ne mesure pas le travail, les risques que prennent les gens qui ont choisi pour métier de nous protéger. on le mesure que quand il arrive de tels drames que le dernier que l'on vient de vivre. Mais il faut bien penser, moi je pense dans ces circonstances-là, à toutes ces familles, ces femmes de militaires, ces parents de militaires, etc., qui ont choisi comme métier d'affronter le risque.
Nous sommes dans une telle situation qu'on se demande si le matin, en les quittant, quand ils partent à faire leur travail, si ces femmes ou ces hommes, quand ce sont des femmes qui sont dans la gendarmerie ou dans la police, s'ils reverront leur conjoint le soir, vivant.
C'est le lot de toutes les personnes, que ce soit ici nos policiers municipaux, nationaux, nos gendarmes. Ils ont choisi un métier, ils savent qu'en choisissant ce métier, ils prennent des risques. Voilà, c'est leur lot. Alors, évidemment, les conjoints, ils doivent y penser. Puis après, c'est peut-être un peu la routine. Tant qu'il n'arrive pas des accidents ou des drames tels que l'on vient de vivre avec le colonel.
Espérons que tous les renseignements vont coordonner leurs efforts pour enfin arriver à suivre correctement les gens qui peuvent induire de tels drames.
La guerre n'est pas finie. On est en guerre. On a connu dans notre histoire des guerres d'une manière différente. Celle-ci est une guerre religieuse. L'ennemi, il est difficilement décelable.
Mais il n'est pas hors de nos frontières. Il est à l'intérieur.
Partout. Il est partout. Alors voilà, donc chacun, nous les élus, nous devons prendre notre part de responsabilité. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler, mais nous travaillons avec les services de l'État pour assurer au maximum, mais le risque de zéro n'existe pas, mais on essaye d'assurer au maximum la sécurité de nos citoyens dans toutes les manifestations que l'on peut faire. La vie ne peut pas s'arrêter. Il faut, et d'ailleurs pour résister au terrorisme tel qu'il est, il ne faut pas annuler les manifestations, il faut prendre certaines précautions certes, mais c'est une forme de combat contre le terrorisme que de vouloir continuer de vivre et de faire vivre nos citoyens.
En hommage au colonel Beltram, je vous propose d'écouter le final de la symphonie héroïque de Ludwig van Beethoven. Nous allons continuer notre émission sur un mode beaucoup plus léger, Dieu merci. Le cœur de ville, qu'est-ce que c'est le cœur de ville, Gérard ?
C'est une très belle opération qui est impulsée par l'État et qui rentre dans le cadre de la loi sur le logement qu'on appelle la loi Elan, et sur lequel, évidemment, la ville de Dreux a sauté dessus. Parce que
elle a pris son élan.
C'est un beau jeu de mots avec la loi. Mais on a sauté sur cette opportunité parce que, comme beaucoup d'autres villes en France, des villes moyennes en France, nous connaissons la problématique de revitalisation, de redynamisation, notamment commerciale, de nos centres-villes. Tous, on a essayé.
C'est un gros problème déjà.
C'est un énorme problème.
Énorme. Et ça fait longtemps que tu te penches sur ce problème.
Ça fait longtemps qu'on essaie de trouver des solutions, que l'on travaille avec les commerçants. Nous avons fait l'année dernière les assises du commerce, on a recruté un manager commerce. On essaye de travailler, on a travaillé avec les propriétaires d'immeubles pour essayer de voir leur niveau de loyer, voir aller baisser, etc., donner leur chance à des nouveaux commerçants de s'installer. On a fait beaucoup de choses. Ce qui m'a plu dans le cadre de cette loi qui va être débattue maintenant, elle est passée, je crois, en Conseil des ministres aujourd'hui, cette loi qui va être débattue maintenant va permettre à ce que l'on prenne d'une manière globale et non plus sous la seule lorgnette du commerce la problématique de nos cœurs de ville. D'une manière globale, parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux du commerce. Il faut que les commerces puissent vivre derrière. Et pour qu'ils puissent vivre, il faut que nos cœurs de ville soient réhabités. Donc le logement va prendre dans cette opération une place très importante. Les aides que l'on peut apporter aux propriétaires d'immeubles dans ces centres-villes peuvent être de nature, il faut qu'ils soient de nature à ce que ce soit attractif pour réhabiliter un certain nombre de logements qui étaient habités dans le temps par les commerçants qui ne le sont plus aujourd'hui, redonner de la vie, redonner des habitants dans nos centres-villes, réimplanter des commerces. Les commerces de bouche ont disparu les uns après les autres. Mais ils ne reviendront que dans la mesure où ils auront des clients.
La charcuterie Baron, la pâtisserie Le Loup.
Oui. Mmh. Et puis les poissonniers qui n'existent plus, oui, etc. Alors on a le marché couvert qui marche bien et qui tient lieu, qui part aux produits frais, à la vente de produits frais au jour le jour, mais qui n'est pas suffisant pour qu'un cœur de ville vive. Et puis, il faut bien y ajouter aujourd'hui une dimension liée au numérique. Les choses, on discute beaucoup, on se renvoie des responsabilités. Il y a aujourd'hui l'offre commerciale, c'est un tout. Un tout qui englobe les centres commerciaux de périphérie, qui englobe, et c'est cette peut-être cet élément-là qui est le plus important aujourd'hui, le e-commerce, le commerce par Internet, qui prend une place considérable. Les jeunes achètent beaucoup par Internet.
Donc l'évasion commerciale du centre-ville n'est pas seulement due aux périphéries.
Absolument. Elle est due à d'autres formes de commerce, etc. Il faut absolument que nos commerçants, il faut moderniser notre centre-ville, y intégrer tout ce qui peut être interactif avec le numérique. C'est tout ce qu'on va faire réhabiter le centre-ville, aider les commerçants en rachetant des pas de porte, les aider à retrouver des loyers qui soient compatibles avec le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire, etc.
C'est à ton avis, tout. Ça a été un gros problème, ça, l'adéquation entre l'achat du... Enfin, le loyer, parce que la plupart du temps, ils n'achètent que le fond et pas les murs.
Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement les propriétaires d'immeubles qui sont d'anciens commerçants, quelquefois, pour la plupart. Ben, quand ils ont quitté leur commerce, ils avaient la propriété de leur mur, ils ont voulu en faire une source de revenus importante.
Pour leur retraite.
Ce qui est légitime sur le fond, mais trop importante, avec des loyers trop élevés par rapport à ce qui se pratique en périphérie, qui voit beaucoup plus de gens passer, beaucoup plus de chalands et de consommateurs passer et qui payent moins cher de loyer.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de facilité pour se garer ? Est-ce que il y a beaucoup plus de choix ?
Vous voulez, aujourd'hui, alors là aussi, la crise, si on peut appeler ça une crise globale, les commerces de périphérie connaissent aujourd'hui leurs limites. On voit la crise de Carrefour, mais la crise aussi dans bon nombre de grandes surfaces qui aujourd'hui commencent à revenir. Il y a un espèce de retour qui se fait sur les centres-villes avec des marques annexes. Carrefour City, ce sont... J'en cite quelques-uns.
J'ai entendu parler d'un petit magasin qui allait peut-être se créer dans le centre-ville de Dreux.
Oui, qui sont des déclinaisons, je ne veux pas dire des sous-marques, mais des marques de centre-ville qui ramènent dans les centres-villes des magasins de 300-500 mètres carrés. On a un exemple ici qui marche très bien, c'est le G20. Vous savez que G20, c'est Carrefour. Carrefour, sous une autre enseigne, a ramené du commerce de proximité de centre-ville.
Une sous-marque.
À des prix très intéressants, voilà, une sous-marque avec des prix très intéressants, un service.
On livre chez les clients ?
Oui, le G20, en dehors du fait du prix, peut-être, il semblerait qu'il soit assez compétitif, mais en dehors de ça, ils offrent un service en plus. Et c'est ce qu'on attend aussi des commerces aujourd'hui. Alors moi, ça me donne espoir pour redynamiser le centre-ville. Il y a une autre forme de commerce qui vient. Il faut s'y atteler, mais d'une manière globale. Notre centre-ville va être appelé à nouveau à être réhabilité d'ici 2020. On va englober dedans le réaménagement des espaces publics. On va y introduire évidemment tout ce qui est interactif entre le commerce et le numérique, et donc le consommateur. On va lui amener toute cette modernité qui est pour nous, à une certaine génération, des éléments nouveaux qui ne le sont pas pour nos jeunes. Nos gens,
moi aussi,
nos gens.
J'ai du mal à imaginer quelle est l'adéquation entre l'interactivité, le commerce. Est-ce qu'on téléphone au magasin pour savoir s'il a le produit?
Non,
on regarde sur Internet.
Sauf que nos jeunes aujourd'hui, moi je le vois avec mes petits-enfants aujourd'hui, eux, ils sont très habitués, dès le plus jeune âge, à traiter avec les téléphones, à commander par Internet, à recevoir, renvoyer si ça ne leur va pas, etc. C'est leur type de commerce, ils l'utilisent de plus en plus. Il faut que nos aménagements, nos commerçants, l'accessibilité au numérique soit faite pour tout le monde, accessible pour tout le monde, avec des bornes Wi-Fi gratuites, etc., qui permettent aux centres-villes, qui permettent aux jeunes, y compris dans les centres-villes, de pouvoir y venir, de pouvoir y accéder. Je remarque qu'aujourd'hui, il y a quelques enseignes de centre-ville qui sont a priori, on a tendance à penser que les jeunes ne viennent pas au centre-ville. C'est faux. On a fait une enquête récemment.
Oui, j'avais assisté à une réunion, effectivement, où
des
jeunes femmes disaient « Mais nos enfants vont souvent dans le centre-ville, ils ont leur restaurant,
ils ont leur café.
Préféré. »
Encore une fois, sans faire de publicité pour qui que ce soit, mais le Columbus Café qu'il y a au centre-ville attire énormément de monde. C'est le café des jeunes. Il va y avoir d'autres
enseignes. Ça met de la vie dans un centre-ville.
Ça met de la vie. Il faut que les jeunes... On n'a pas d'université ici qui amène des jeunes le soir à traînailler dans les centres-villes, à consommer, etc. Il faut leur amener des espaces qui leur permettent des espaces de convivialité, qui
où
leur permettent
bien.
De se retrouver, où ils sentent bien, où c'est pas cher. Les jeunes n'ont pas non plus beaucoup d'argent, où ce soit pas cher, où ils peuvent consommer raisonnablement, etc. Il y a certaines enseignes qui viennent et les jeunes fréquentent nos centres-villes. Il faut savoir aujourd'hui les retenir pour qu'ils consomment
c'est
de
l'avenir.
Plus en plus. C'est ce sur quoi on va s'atteler. Je pense que c'est un bon projet. Parce qu'il est pris globalement, et je le compare au projet, moi qui a présidé l'ANRU pendant 6 ans, je le compare à l'action qui a été menée pour les quartiers. Les quartiers, on ne s'est pas contenté de dire on va réhabiliter, rénover. Borloo, quand il a institué ça en 2004, il a dit il faut repenser complètement le quartier et globalement, y compris dans l'urbanisme, l'aménagement, la mixité, l'accession, etc. Eh bien, j'ai l'impression, c'est pas l'impression, j'ai lu beaucoup tous les documents, on s'est porté vite candidat pour être retenu comme ville pouvant bénéficier de ce dispositif.
Il y a beaucoup de villes qui vont être retenues.
222
mais sur tout le territoire.
Sur tout le territoire français, avec une première salve d'une trentaine dont nous ferons partie dès 2018. Voilà. Tout ça, ça va ressembler à une action qui a été menée par l'ANRU dans les quartiers. Mais il va y avoir une action à peu près similaire avec beaucoup de partenaires. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, la Caisse des dépôts, beaucoup de partenaires hein, dans le numérique, localement, etc., qui vont collaborer avec nous pour repenser complètement nos cœurs de ville et les faire revivre.
Je suppose que ton action dans l'ANRU, ça a été déterminant pour ton choix. Tu t'es lancé là-dedans avec une certaine expérience tout de même.
Oui,
c'est quand même...
J'ai tout de suite vu l'ANRU. Je reste convaincu, persuadé que ça a été une très bonne chose pour beaucoup de quartiers. Ça n'a pas tout résolu, mais ça a résolu beaucoup de problèmes. On le voit bien à Dreux sur les quartiers sud, les problèmes qu'on peut continuer à rencontrer n'ont plus rien à voir avec les problèmes qu'on rencontrait il y a 10 ans.
C'est très encourageant.
Bien sûr. Et donc, on s'aperçoit qu'un travail de fond, on a dépensé quand même plus de 250 millions pour rénover les quartiers sud de Dreux. Donc, un travail de fond finit par produire ses effets. Ça coûte cher, mais ça finit par produire ses effets. On va le faire pour les quartiers nord de Dreux et on va le faire spécifiquement maintenant dans le cadre de l'action Cœur de Ville pour le centre-ville. Alors, c'est une opération qui va s'échelonner sur 4 ans, 5 ans, peut-être plus, mais qui va voir son démarrage dès cette année.
Ce matin, j'écoutais à la télévision, dans l'émission Télématin, Les 4 vérités, Luc Ferry, qui se désolait du peu de moyens qui étaient mis à la disposition de l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle. Il disait que c'était vraiment mais minable et qu'on allait continuer à se faire manger la laine sur le dos par la Chine et les États-Unis.
Oui, je crois.
Est-ce que tout ça, il faut quand même un bon budget pour que ça fasse quelque chose.
Il a raison. Il y a une prise de conscience à avoir de tout ce qui reste à faire. La France, et principalement chez nous ici, dans le département, voire dans l'agglomération de Dreux, ont fait ou sont en cours d'efforts considérables, y compris financiers, pour amener à chaque maison, à chaque appartement, le très haut débit. Mais si parallèlement, on ne développe pas quelque chose qui va aller vers les usages, va utiliser ces distributions de très haut débit, ça ne sert à rien. On va avoir dépensé plus de 70 millions sur notre agglomération, bon, sur ces 5 dernières années, pour amener en 2020 le très haut débit partout. Mais si derrière, on n'en a pas les moyens, on n'en a pas l'usage, on ne développe pas, on n'ouvre pas sur les usages du numérique, ça ne servira pas à grand-chose.
Alors, il a raison,
on est en retard là-dessus, mais je pense qu'on peut aller très très vite. Il y a énormément de petites entreprises, de boîtes que je côtoie au jour le jour, qui sont soit des fabricants, soit des inventeurs, soit des... etc. On va créer à Dreux, c'est peut-être un scoop que je vais donner à ta radio en même temps.
Mais on va créer, c'est très intéressant.
on va créer à l'emplacement de la Caisse d'épargne la maison du numérique, où là on va installer des espaces communs de travail, des espaces de coworking, on appelle ça, de travail sur l'ordinateur, sur Internet, etc. On va accueillir des start-up, on va accueillir des jeunes qui veulent créer de l'entreprise, on va leur donner les conditions
alors
de création
là,
d'entreprise
de
dans
ce
domaine-là,
pour le coup.
En plein cœur de ville et dans un endroit prestigieux. Tout ça sera fini fin 2018, début 2019, qui permettra d'avoir notre outil de développement des usages du numérique sur notre centre-ville et pour l'agglomération tout entière.
Et allez-vous préserver le bâtiment lui-même ?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, la ville en garde la propriété. Elle va mettre ce bâtiment à disposition d'une structure qui est en train de se créer pour gérer ça, pour gérer le numérique, l'accueil des startups, des nouvelles entreprises, etc. Mais ça restera propriété de la ville. Nous allons investir...
Je crois même qu'il y avait, j'en suis quasiment certaine, un salon au premier étage qui était classé.
Ah, ben
c'est
ben
le cas.
C'était l'ancien conseil d'administration, la salle du conseil d'administration de la Caisse d'épargne, mais qui servait aussi du temps où la mairie utilisait partiellement la Caisse d'épargne qui servait de salle de conseil municipal. Évidemment, cette salle est très très belle. Elle va être rénovée, réhabilitée et elle va servir pour les entreprises qui voudront s'installer. Je crois que c'est l'espace de coworking qui est prévu dedans.
On connaît bien cette salle parce que Philippe, mon époux, a été très très longtemps, de nombreuses années, président de la Caisse d'épargne, ensuite président du conseil de surveillance et Dieu sait s'ils ont fait des réunions.
Dans cette salle.
Oh là là, quelle splendeur.
Non, évidemment, on va la préserver. La Caisse d'épargne reste propriété de la ville. Elle va être mise à disposition pour l'euro symbolique à l'agglomération qui porte
que
ce
tu
projet.
Présides.
Que je préside, mais qui porte le projet dans ses compétences économiques de la Caisse d'épargne. Nous allons investir 2,5 millions à peu près pour réhabiliter dedans. Ça va être du top niveau, à la fois sur le plan des aménagements que l'on va faire, et puis le cadre, ça serait prestigieux, évidemment.
Au cœur de ville. Très bien. Alors, nous allons pas très loin de la Caisse d'épargne. On monte le boulevard de la Gare, enfin le boulevard Louis-Thériault. Et on arrive à la gare. Et ça va se terminer quand, ces travaux, Gérard ?
Avant 2020, ça c'est sûr. Voyez toutes les étapes que l'on franchit actuellement. On a fait le passage Saint-Denis, on a fait la gare routière. On est en phase de finition du parvis devant la gare. Tout a bien changé. Le giratoire a disparu. Le statut de Louis-Thériault va revenir la semaine prochaine. On est dans les phases de finition. On va agrémenter de jets d'eau, éclairer la nuit, etc. le parvis de la gare. Tout le parvis devant va être terminé. On est début avril, avant la fin avril, c'est sûr.
Toute petite question qu'on me pose beaucoup. Y aura-t-il des petites places qui vont être comme Kiss and Fly à Orly ou des pauses minutes ?
Oui, il y a...
Ça va exister, ça.
Il va falloir que les Drouais et ceux qui habitent, qui viennent à la gare, hors de Dreux, s'habituent à rentrer à la gare par l'arrière.
D'accord.
Puisque derrière, on est en cours de construction d'un parking silo qui va contenir dans un premier temps 300 places, puis 400 dans un deuxième temps. Et puis tout le trafic de la gare va se faire par derrière.
D'accord, parce que si je me garde dans le parking silo pour déposer une amie, je vais lui balancer du haut ses petites valises par terre.
Voilà, donc il y aura un espace sur ce qu'on appelle le parvis sud.
Oui.
Sur ce parvis sud qui va être aménagé en même temps que l'ouverture du parking silo. dépôts. Il y aura des dépôts minutes.
Ah, ça, c'est très important.
Comme dans tout trafic de gare, par ailleurs, tout ça va être fait. Ce qui fait que tout le trafic d'entrée, de sortie de gare, d'accès au parking, etc., va se faire par l'arrière. Il y aura bien sûr la possibilité toujours, hein, avec les transports en commun, les taxis, etc., de rentrer par le parvis nord côté ville, ça restera. Mmh. Alors là, tout le parvis va être terminé fin avril. Ensuite, le parking silo est commencé, il sera livré au mois de septembre. Et puis, en même temps, va être livré le parvis sud. Et puis, nous commençons aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec un promoteur la semaine prochaine qui est très intéressé. Nous allons construire au total 16 000 m² de bureaux pour accueillir des entreprises dans le tertiaire, etc. Un premier immeuble va probablement commencer tout début d'année prochaine.
Alors, on abordera le tertiaire dans une autre émission. Juste un petit mot donc pour la gare. Tu m'avais dit dans une émission précédente qu'on pouvait compter absolument sur un accès handicapé, quel qu'il soit, ou bien ascenseur, tu me parlais d'ascenseur, à la fin 2019, tu en es certain.
Oui. Alors, nous, la ville, on a fait ce qu'il fallait, mais il reste à la gare, à la SNCF, pour donner l'accès handicapé au quai. Il leur reste à mettre en place deux ascenseurs. Et ils disent qu'ils n'ont pas d'argent avant la fin 2019 pour pouvoir mettre ces ascenseurs. C'est scandaleux. Voilà, hein, je l'ai déjà dit, je le dis, je travaille avec la SNCF par ailleurs. Mais c'est scandaleux qu'on n'ait pas trouvé les moyens pour faire en même temps que nous. Pour l'instant, on est en train de moderniser la gare. On est en train de faire tout pour faire en sorte que ce qu'on appelle les navetteurs et leur confort et tout ce qu'il faut pour se rendre au boulot, aller à Paris, revenir en permanence, la SNCF n'a pas mis un centime. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont deux ascenseurs à faire, ils n'en ont pas les moyens. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, hein, je ne ferai pas la jonction avec les mouvements de grève qu'on vit actuellement, mais enfin, il ne faut pas quand même s'étonner à un moment donné que ça explose, quoi.
Alors, nous allons terminer cette émission là-dessus. Bien sûr, tu reviendras nous voir. Mais si la SNCF nous écoute, j'espère qu'elle nous écoute.
J'espère qu'elle écoute. J'espère qu'en même temps, elle m'entend, parce que en dehors de cette émission, je mets une pression terrible. Le problème de la SNCF, c'est qu'il y a beaucoup de responsables, beaucoup d'interlocuteurs qui sont très gentils, très courtois, mais il n'y a pas beaucoup de décideurs. Et du coup, derrière, on ne sait jamais quand on aura les choses.
Et on compte sur toi pour t'accrocher et nous défendre.
C'est mon travail au quotidien, mais ce n'est pas facile.
Merci Gérard d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup. Merci à Émilie Glory, directrice d'antenne, qui a enregistré cette émission dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel. À bientôt, chers amis. Au revoir. Thank you.